Bien, bah écoutez, nous allons, bonjour à tous et à toutes, nous allons commencer pile à l'heure, puisque beaucoup ont fait l'effort pour être à l'heure, et du fait que nous avons deux chapitres à parcourir cet après-midi, ce qui fait un menu assez conséquent, deux chapitres dont les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse. Vous avez déjà sur vos feuilles le chapitre 12 qui fait un peu diptyque avec le chapitre 13. C'est pour ça que nous allons les lire ensemble. Même formellement, il faudrait lire 12, 13 et 14 parce qu'on a affaire non pas à un diptyque mais à un triptyque avec le 13 au milieu. Et c'est le chapitre 13 sur lequel nous allons passer le plus de temps. Que vous n'avez pour l'instant pas, mais que vous allez avoir tout à l'heure, et que vous allez avoir tout à l'heure avec une magnifique enluminure que nous commenterons après avoir lu le texte. Mais évidemment, comme 12-13 font diptyque, c'est difficile de les lire séparément, et il est important d'avoir parcouru le chapitre 12 pour voir comment il s'articule au 13, ce que je vous propose de faire maintenant. Il y a au verso de vos feuilles du 12 aussi un certain nombre d'images que nous irons voir après avoir lu le chapitre 12. Donc maintenant que je vous ai fait retourner les images, on va regarder le texte. Est-ce que quelqu'un voudrait... Vous voyez que le chapitre 12, je vous l'ai mis en trois parties, trois grosses sections, qui sont trois sections du récit. Je vous ai mis en petite introduction que d'une certaine façon, le chapitre 12 et le chapitre 13 sont l'envers, le pile et face, les deux faces de la même histoire. Une qui se passe au ciel et une qui se passe sur terre. Alors évidemment, c'est souvent intéressant dans les récits mythologiques de voir ce qui se passe au ciel. Ça nous explique, ça nous aide à comprendre ce qui se passe sur Terre. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont conçus et comme ça qu'ils sont conçus. Je dis à notre amie Régine, si tu veux, tu as une place qui est là-bas avec un texte. Parce que sinon, tu vas manquer le texte que nous allons commencer de lire. Qui veut bien lire la première partie, les versets 1 à 6, puis ensuite on aura un autre lecteur sur les versets 7 à 12, et encore les versets 13 à 18 avec un autre lecteur. Peut-être est-ce qu'il faut, pendant que l'un ou l'une d'entre nous lira tel ou tel paragraphe, avoir en tête ces deux questions, où est-ce que ces trois questions... Où est-ce que ça se passe? Qui sont les protagonistes? Puis quels sont les camps? Puisqu'il y a une bagarre, donc il y a un combat, donc il y a des camps. Voilà. Qui veut bien lire, commencer la lecture?
Ouais,
merci. Et puis une autre personne enchaînera pour le deuxième paragraphe, 7 à 12, et un troisième lecteur et un troisième lecteur. Voilà.
Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher. Pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait, elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours.
Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Aussi soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. »
Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. De sa bouche, le serpent vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme, pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la flamme, elle ouvrit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa bouche. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable de la mer.
Merci beaucoup. C'est là que nous le retrouverons, le dragon, sur le sable de la mer, au début du chapitre 13. Où est-ce que ça se passe, tout ça? Est-ce que vous avez noté des scènes, enfin des lieux où se passent les différents moments du récit?
Le début au ciel.
Et la suite sur terre. Alors, ça commence au ciel et ça finit sur terre.
La première partie, c'est sur la terre.
Laquelle première partie?
De 1 à 6.
Ah bon?
Un grand signe apparu dans le ciel. Bon.
Ah oui. Ah, c'est vu de la terre, bien sûr. On ne nous dit pas que le visionnaire est emmené au ciel. On nous dit qu'il voit le ciel. Oui, mais n'empêche que tout le contenu de la vision, dans le premier chapitre, est au ciel. Alors, avec quelques incohérences aussi, parce que c'est vrai que quand la femme s'enfuit au désert, on va la retrouver à la fin.
Et pourquoi son enfant est enlevé auprès de Dieu de son trône si c'est déjà au ciel?
Alors... Ah oui, mais alors, vous savez, il y a plusieurs cieux. Dans l'Antiquité, puis on dit le septième ciel, mais les gnostiques avaient 365 étages à gravir pour atteindre le ciel ultime. Donc, qu'il y ait plusieurs étages dans le ciel, ça c'est pas trop étonnant. Mais... grosso modo, on a l'impression qu'on nous parle d'abord de quelque chose qui est visible au ciel, mais c'est vrai, on sent tout de suite que ça va avoir des conséquences sur la terre, puisqu'il est question de la fuite au désert, etc., de la femme.
Et même dans la deuxième partie, qui est le combat au ciel, ça se termine sur la terre.
Alors, exactement. Alors, peut-être qu'on pourrait tomber d'accord sur le fait qu'en tout cas, les deux premiers paragraphes commencent au ciel, l'essentiel se passe au ciel, mais ça finit sur la terre. Hein? Ça finit dans le premier paragraphe par une anticipation de la fuite de la femme qu'on va retrouver à la toute fin, et puis ça se termine dans le deuxième paragraphe par la chute du dragon sur la terre. Ouais. Et puis alors le troisième paragraphe, on est complètement sur la terre. Hein? Donc on a l'impression que la vision est celle d'un combat céleste qui va avoir des conséquences importantes sur la terre, en première approche. On serait d'accord pour avoir cette lecture. Maintenant, interrogeons... Et alors, le chapitre 13 sera entièrement sur la terre. Et on aura le pendant de ce qui s'est passé au ciel sur la terre. Dans ce premier chapitre, quels sont les personnages qu'on peut identifier, et à chaque fois qu'on en nommera un, on essaiera d'aller voir toutes ces occurrences et puis ces visages.
La femme.
Alors la femme, alors commençons par la femme. La femme, qu'est-ce qu'on apprend sur cette dame ? Son vêtement, elle a un vêtement. Comment on pourrait le bizarre, dit madame. Comment est-ce qu'on pourrait le qualifier ?
Céleste,
lumineux, elle est en habit de lumière, oui, en habit cosmique, c'est un truc sympa pour les astronomes amateurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur cette dame ?
Elle est enceinte.
Ouais, elle est enceinte. Alors, elle a une couronne, oui, elle a une couronne. Ouais. Elle est enceinte.
Et même au ciel, elle souffre.
Même au ciel, elle souffre. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur cette dame ? Elle est dans les douleurs de l'enfantement, oui.
Quand elle est plus qu'enceinte.
Elle est plus qu'enceinte. Elle est en train d'accoucher. Cette dame est en train d'accoucher. Vous avez une place qui est libre là avec le texte que nous sommes en train de commenter. Elle va avoir un fils mâle. Alors, on parlera de son fils parce que c'est un autre. Il est évidemment lié à cette dame, mais c'est un autre personnage. Qu'est-ce qu'on apprend encore de cette dame ?
Elle prend la fuite sur la terre.
Elle doit s'enfuir au désert parce que elle est poursuivie par le dragon. Parce que Dieu a prévu les choses, ouais. Alors ça, on a toujours ça dans l'Apocalypse, hein, les choses ne vont pas au hasard. Dieu a toujours prévu les choses. C'est ça qui est rassurant. Même quand c'est la persécution, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Alors la femme, elle disparaît complètement de la scène du milieu, si je vois bien. Elle réapparaît, et elle est même un des personnages importants de la dernière, du dernier paragraphe. Et on nous décrit sa fuite, c'est un petit peu une sorte de c'est très très cinématographique. Hein ? On reviendra sur cette dame, parce qu'il va falloir l'identifier après. Parce qu'on a pas mal d'éléments qui nous donnent des indications. Quel autre personnage important ? Alors, j'hésite, il y a son enfant, le dragon. On reviendra sur son enfant. Le dragon. Alors, le dragon, il nous en a dit plein de choses, lui aussi. Alors, il est d'abord présenté comme un grand dragon rouge feu, hein, au verset 7. Ouais. Qui est aussi la couleur du sang. On sent que ce n'est pas un copain. Ouais. C'est la couleur du pouvoir, c'est la couleur du sang. Alors, c'est un des jeux dans l'Apocalypse, c'est que le rouge, c'est la couleur du sang. Ça peut être le sang des martyrs, ça peut être le sang du Christ, souvent identifié. Ça peut être la couleur du pouvoir, et en particulier du pouvoir romain. Et souvent, ça va ensemble. On le verra, c'est transparent dans le chapitre 17, quand on verra la chute de la grande prostituée, Babylone, qui s'est enivrée du sang des martyrs. Et c'est bien sûr Rome qui est aussi là. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur ce dragon ?
Il a une grande queue.
Il a une grande queue.
Qui entraîne les étoiles.
Alors, il a dit... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une grande queue qui suffit d'un battement pour enlever toutes les étoiles ? Qu'est-ce que ça dit en dehors de l'imaginaire visuel que ça convoque ? Il est très grand. Il a du pouvoir. Il a du pouvoir sur quoi ?
Sur la création.
Sur la création. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir qui a quelque chose de cosmique ou d'universel. Ce n'est pas un petit pouvoir local. Et il peut y avoir du mal local. Mais là, c'est un mal à l'échelle mondiale, cosmique. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur lui ?
Il veut dévorer l'enfant.
Il veut dévorer l'enfant. En fait, s'il en a après la femme, c'est pas qu'il est misogyne, ni qu'il n'a pas cette dame dans le nez, c'est du fait qu'elle est en train d'enfanter un enfant spécial.
Et donc son ennemi, c'est vraiment l'enfant à naître.
Oui, merci beaucoup. Le vrai ennemi du dragon, c'est l'enfant à naître dans l'imaginaire de cette vision. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend encore de lui, du dragon, qui est vraiment le personnage qui accompagne tout le récit?
C'est-à-dire toutes ses cornes et ses têtes, alors avec les diadèmes.
Alors,
donc les sept têtes, sept en principe, c'est un chiffre de plénitude.
Ouais.
Et les 10 cornes, bon, ça doit représenter, à mon avis, bon, je sais pas, ça doit représenter plus ou moins l'Empire romain et ses différentes parties et chefs et dirigeants.
Ouais. D'autres hypothèses? Il y a un chiffre divin, la plénitude, ouais. Alors, il faut faire attention dans l'Apocalypse. Quelquefois, les chiffres ont une valeur symbolique, métaphorique, puis quelquefois, ils désignent des réalités concrètes. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air de... Est-ce que c'est l'ensemble du pouvoir romain? C'est des têtes couronnées, hein. Quand on dit des têtes couronnées, c'est des gens qui ont le pouvoir. Alors, avec un petit problème, c'est qu'il y a, il y a bien sept têtes et sept diadèmes, mais il y a 10 cornes. Il y a cette bizarrerie. On préférerait qu'il ait 14 cornes. Ça serait logique. Ou qu'il n'y ait que 7 cornes. Dans ce cas-là, ce serait des sortes de licornes, d'unicornes. Mais là, ça ne colle pas. Alors, c'est intéressant. Si on, ailleurs dans l'Apocalypse, on le retrouvera. On apprendra que c'est... que ses têtes et ses cornes et ses diadèmes sont des rois. Et puis il y a même un moment où on nous dit six ont déjà régné, le septième est en train de régner, le huitième va venir, etc. Alors il y en a qui se sont posés beaucoup de questions là-dessus. Une des hypothèses, on la retrouve, je vous donnerai les références, et je pense que c'est à côté du texte de Genèse 13, d'Apocalypse 13. C'est que si on compte les... d'abord, on se rend compte que chez les historiens romains, Flavius Joseph ou d'autres, qui ont commencé à faire le compute des empereurs ou des empires, des empereurs depuis Auguste, il y a toujours un hiatus. Il y a un problème de comptabilité avec un différentiel de 3. Comme par hasard. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a... C'est tout à fait identifiable, pourquoi est-ce qu'il y a ce différentiel de 3? C'est que vous savez que la succession de Néron, à sa mort en 68, a été suivie de 1 an et demi de quasi-anarchie à Rome, et en l'espace d'un an et demi, il y a 3 empereurs qui se sont succédés, et qui ont été assassinés ou qui ont disparu, c'est Galba, Othon et Vitellius. Galba, à tel point que les historiens romains, indépendants de l'Apocalypse et du monde chrétien, quand ils comptent les empereurs, souvent ces 3-là, ils ne les comptent pas. Parce que c'est des empereurs qui n'ont pas régné, enfin, ils ont été nommés et assassinés, point bas. C'est quand même bizarre, là, ce différentiel. Alors, certains pensent, moi je suis assez d'accord avec cette opinion, c'est qu'on compte 7 empereurs romains jusqu'à la fin du 1er siècle. Donc il y a les sept têtes et les 7 diadèmes, mais il y a quand même eu formellement 10 cornes, 10 qui ont eu formellement le pouvoir. Avec le seul problème... que si jamais on compte Auguste, on en a 8. Le compte n'est pas bon.
Auguste, en même temps, pas tous savaient qu'il était en train de le titre d'Auguste, donc il peut le compter 0.
Alors, on peut le compter 0 parce que, pour 2 raisons. D'abord, d'une part, à cause de ce que vous dites, parce que, je dirais, Auguste, c'est le modèle, à tel point d'ailleurs que les autres empereurs vont être Auguste. Auguste va devenir un titre. Hein. On pourrait dire c'est le numéro 0, c'est le princeps, et puis après on va commencer à compter. Il y a une autre raison qui peut théologique, c'est que après Auguste, ça a été Tibère. Or, Jésus meurt sous Tibère. Jésus meurt et ressuscite sous Tibère. Et nous avons bien vu à plusieurs reprises déjà, et ça c'est je crois Prigent, qui est un spécialiste de l'Apocalypse, qui le signale, que le temps zéro de l'Apocalypse, c'est la mort et la résurrection de Jésus. L'agneau immolé est ressuscité. Et que le temps zéro d'un point de vue chrétien, c'est pas le temps zéro d'un point de vue romain, c'est... Ça commence avec Tibère, Jésus est mort et ressuscité sous Tibère. Du coup, là, ça pourrait vouloir dire, le dragon rouge feu, il est quelque part une récapitulation de ce qu'a été le pouvoir de l'Empire romain, de la mort de Jésus avec Tibère, jusqu'à Domitien à la fin du 1er siècle. Et du coup, on a ces 10 cornes, ce différentiel entre 7 et 10, c'est les trois là, les trois de la succession de. Je trouve que c'est assez séduisant et je vois pas ce qui pourrait s'opposer à ce type de compréhension. D'autant plus que plus loin dans le livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 17-18, on nous dit explicitement ces sept têtes et ces 10 cornes sont alors à la fois les 7 montagnes de Rome et les 7 empires. Enfin, les 7 collines de Rome et les 7 empires qui se sont succédés et sont tous des rois. Hein.
Donc, c'est déjà ceux qui n'ont pas régné, mais
Othon, Galba et Vitellius. Galba, Othon, Vitellius, dans cet ordre-là. Enfin, en un an et demi, vous avez 3 empereurs. Mais, et du coup, c'est marrant parce que chez les historiens romains, on a cette hésitation aussi entre ces deux chiffres. Qu'est-ce qu'on apprend encore de ce dragon ? Vous voyez qu'on est déjà pas mal orienté. S'il est une représentation mythologique du pouvoir impérial romain, on comprend d'ailleurs sa puissance universelle. Il suffit qu'il remue la queue pour que l'ensemble des étoiles tombe. Comment il nous a encore décrit ce dragon ?
Il a raté l'enfant.
Il a raté l'enfant, oui. Il l'a loupé. Ouais. L'enfant a réussi à lui échapper. Ouais. Il a beaucoup de puissance, mais l'enfant qui a priori est plus faible que lui, en tout cas a survécu à sa poursuite. Ouais. Comment est-ce qu'il nous a encore décrit ? Regardez dans le passage dans le paragraphe du milieu. Oui, au verset 9. Relisez le verset 9. Il fut jeté en bas. Le grand dragon, ben c'est le même, là. Le serpent d'autrefois, qui est aussi appelé le diable et le Satan. Et au verset 10, qui est-ce qui a été jeté en bas ?
L'accusateur.
L'accusateur de nos frères. On a l'impression que on a un chapitre qui essaie de faire voiture-balai sur toutes les représentations possibles du mal et toutes ces appellations possibles. Pour dire que c'est bien le même. Hein. Il n'y a pas de différence entre le grand dragon rouge feu et le Satan d'autrefois. Le serpent d'autrefois, c'est qui ? C'est le serpent de la Genèse. C'est le serpent de la Genèse. L'accusateur de nos frères. On entend parler où de l'accusateur ? Non, c'est pas dans Caïn. Madame, je viens d'un groupe biblique au foyer de l'âme sur Job. Dans Job, c'est l'accusateur. Exactement. Vous voyez, on a l'impression de l'auteur de cette vision est en train de nous expliquer que le personnage du dragon récapitule en lui toutes les figures du mal, quel qu'ait été leur nom dans l'histoire, quels aient été serpents... Pardon ?
C'est pas une incarnation même du malin, du mal.
Ouais, on pourrait le dire comme ça. Sauf que si on parle d'incarnation, ça veut dire dans la chair. Et si on dit dans la chair, c'est dans quelle chair ? C'est dans la chair de l'Empire romain. C'est là son incarnation.
Dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Empire romain résume tous les mots possibles.
On pourrait dire que l'Empire romain résume tous les mots possibles. Exactement. On pourrait dire, comme Dieu s'incarne en Jésus-Christ, Satan et tout le mal, du point de vue du visionnaire, s'incarne dans l'Empire romain et dans ceux qui en sont les figures de proue, à savoir les empereurs.
Hein? Donc, qu'il faut adorer.
Pardon ?
Qu'il faut adorer.
Qu'il faut adorer, c'est pour ça qu'ils sont ennemis. Et puis vous voyez que de nouveau il est appelé le dragon et le serpent dans la suite du le dernier paragraphe du récit. Est-ce qu'on peut aller voir un autre personnage ? On avait parlé de l'enfant. Et on avait dit que c'était lui, finalement, qui était la cible principale du dragon, serpent, Satan, Diabolo.
L'enfant est enlevé auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'il est mis à l'abri auprès de l'Esprit.
L'enfant est spécialement protégé par Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend encore de cet enfant ? On fait sa carte d'identité, hein, finalement. C'est en particulier dans le premier chapitre. Pour l'instant, c'est très vague, hein, un enfant. Un fils. C'est un fils mâle.
Oui.
Quel verset ? Verset 5. Il va faire paître toutes les nations. Donc, il a une vocation de... Pas forcément de paix, enfin de... Pardon ?
Avec le sceptre de fer, je crois que ça renvoie un psaume ou une identification avec le Messie.
Exactement, c'est une appellation messianique. Il est le Messie qui va diriger son peuple, finalement, et le protéger. Donc la vocation de cet enfant à naître, c'est d'avoir de diriger et de protéger son peuple. Et vous voyez que son champ d'action, son champ de pouvoir, c'est quoi ? C'est les nations. Ça tombe mal parce qu'il y en a déjà un autre qui a comme champ de pouvoir les nations. C'est l'empereur de Rome qui règne sur l'ensemble des nations. On voit tout de suite quel est le problème. C'est qu'il n'y a pas de place pour deux. Ou bien c'est Rome qui règne, ou bien c'est l'enfant à naître qui va paître les nations. Mais c'est s'il se retrouve, et on comprend bien pourquoi le dragon en veut autant, non pas à la femme, mais à l'enfant à naître, parce qu'il a affaire à un concurrent.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le sceptre de fer ?
Avec puissance. C'est pas un sceptre en...
C'est pas un sceptre d'autorité,
Oui, c'est un sceptre d'autorité. C'est pas un glaive, mais c'est un sceptre. C'est pas un sceptre en guimauve. C'est pas un sceptre de carnaval. C'est une vraie autorité. C'est une vraie autorité qui va être efficace. Oui. Où est-ce qu'on le retrouve, l'enfant ? Alors, il est enlevé auprès de Dieu. Ça collerait bien avec le Messie. Hein. Oui.
On y pense.
Oui. Et puis vous voyez que le problème du dragon, c'est que comme sa proie principale, l'enfant, a été mis en lieu sûr auprès de Dieu, qu'est-ce qu'il fait, le dragon ?
Il va se venger sur la femme.
Alors regardez à la fin du texte. Parce que la femme est elle aussi secourue de façon miraculeuse.
Non, il va faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire toute l'humanité.
Exactement, verset 17. Le dragon, n'ayant pas pu mettre, j'allais dire la main, mais c'est la dent,
sur l'enfant,
il va continuer sa guerre contre le reste. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est sa descendance ? Regardez, c'est qui la descendance de l'enfant ? Ou de la femme. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et portent le témoignage de Jésus. C'est qui ? C'est les chrétiens. C'est-à-dire que le dragon qui était en fureur contre l'enfant, enragé de ne pas avoir pu mettre la dent sur l'enfant, va transformer sa guerre en une guerre contre les chrétiens. Contre ceux qui se mettent dans la ligne de l'enfant, qui sont ces...
Les autres,
ouais. Alors il nous reste la femme. Ah non, il y a encore d'autres personnages. On viendra sur la femme après. Il y a d'autres personnages.
Ben Michel et ses anges.
Michel et ses anges, ouais. Les versets 7 à 12, on voit que on a affaire à... C'est presque de la guerre des étoiles. Hein.
Ça fait tout à fait penser à la guerre de Zeus contre les géants, les titans,
ouais.
Le serpent Pliton qui apparaît d'ailleurs derrière.
Ouais.
Et donc,
il y a deux grandes entités divines qui s'affrontent, qui sont les boss, les chefs. Et puis, ils ont chacun leur armée qui est organisée à la façon des armées terrestres romaines connues. Et Michel est le chef de ceux qui se battent pour Dieu. Il a ses anges, et puis le dragon, il a aussi ses anges. C'est une sorte de...
C'était un ange, hein, lui. C'était quand même Lucifer, le porteur de lumière.
Oui, alors c'est ce qu'il est devenu dans d'autres traductions, qu'il était déjà, mais en tout cas là, c'est pas ce qui est mis en avant. Et donc, vous voyez, on a cette image qui a nourri beaucoup d'imaginaires de films. Hein. C'est la guerre des étoiles. Il y a le côté sombre, il y a le camp du bien contre le camp du mal. Ouais. Et puis on voit que le mal perd. Ça, c'est en général dans les films, c'est pareil. Hein. Dans les films, c'est pareil. Il y a une happy end. Et sauf que là, il y a un petit détail. C'est que quand le mal perd, qu'est-ce qui lui arrive au mal ?
Il est jeté à terre.
Il est jeté à terre. Et notre problème, c'est quoi ?
Ben, c'est qu'il est toujours.
Ben, notre problème, c'est que c'est là qu'on habite. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, un grand combat céleste entre Dark Vador et je ne sais pas quel autre. On est bien content parce que le bien a gagné. Sauf que le mal n'est pas mort. Le mal n'est pas mort. Et en plus, il nous est tombé dessus.
C'est pour qu'il y ait un épisode après.
C'est pour qu'il y ait un épisode après, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que, n'ayant plus à exercer son agressivité contre les anges célestes, il s'en prend à la descendance de l'enfant. Et c'est l'imaginaire qu'il construit pour expliquer pourquoi est-ce que l'Empire romain est à notre... est à nos trousses.
Pourquoi il sait qu'il a peu de temps ?
Parce qu'il y a besoin qu'il le sache. Parce qu'il est important de dire à ceux qui ont reçu le diable sur le coin du nez que ça a une fin. Parce que si on leur dit... Le diable est chez vous et il y est pour toute éternité jusqu'à la fin du monde, c'est un petit peu désespérant. C'est-à-dire qu'il est très dur, il est comme une bête blessée dangereuse, c'est pour ça que c'est violent, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer tout le temps. Et rassurez-vous, il a déjà été vaincu. Il est juste en sursis, on pourrait dire. On pourrait dire que le grand dragon, le diable, le mal, est en sursis. Mais formellement, il a déjà été vaincu du point de vue du principe. Pardon ?
C'est pas ce qu'on dit avec Jésus.
C'est ce qu'on dit avec Jésus. C'est ce qu'on dit avec le royaume de Dieu. Il est déjà là, mais pas encore. Et puis tout le discours de l'Apocalypse, c'est de dire la victoire a déjà été remportée par l'agneau immolé qui se tient debout. Mais le combat reste amené sur terre. Et peut-être une dernière chose avant que nous basculions sur le chapitre 13. Regardez ce qui, dans le passage central, il faudra qu'on identifie la femme. Regardez ce qui, dans le passage central, provoque la victoire. Il y a plusieurs choses qui produisent la victoire dans les versets 7 à 12. La première chose mythologique,
c'est Michel et ses anges.
C'est Michel et ses anges sont les plus forts. Il y a une autre raison qui nous est donnée. Oui, regardez dans la partie qui est entre guillemets, qui est en décalé là.
Il y a le pouvoir des créatures.
il a été jeté à bas, donc c'est un autre, c'est l'accusateur de nos frères, à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que Michel et ses anges sont les plus forts, mais c'est le sang de l'agneau qui l'a vaincu. Et puis ce n'est pas seulement le sang de l'agneau.
Celui des martyrs.
Et ce. Exactement, à cause de la parole et des témoignages. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Michel et ses anges ne sont que les images mythologiques d'une victoire qui a été remportée sur deux fronts qui sont indissociables. Pour que la victoire sur le mal soit remportée, il faut qu'il y ait eu le sang de l'agneau. Donc, sang de l'agneau, ça veut dire la mort et la résurrection du Christ. Hein. Mais la mort et la résurrection du Christ tout seuls sont inopérants. Ils ont besoin de quoi ? Du témoignage des témoins. C'est-à-dire que la mort, le sang de l'agneau, n'a aucune vertu seul. Il n'a de vertu que s'il y a des gens qui témoignent, quelquefois au prix de leur vie, du sang de l'agneau. Et ce que je veux dire ? Et le martyr tout seul n'a pas de sens s'il ne s'appuie pas sur le, sens de, sur le sang de l'agneau. Je parle de la logique de ce livre. D'une certaine façon, on est en train de nous dire que le combat qui est encore amené et qui est déjà gagné, il a deux moteurs de la victoire qui sont indissociablement liés. C'est le sang de l'agneau et des gens qui témoignent du sang de l'agneau. S'il y a les deux, le grand dragon a perdu. Ça paraît clair ?
Hein ? Ils attestent du sang de l'agneau.
Ils attestent du sang de l'agneau.
Par leur action, leur parole, de leur vivant.
De leur vivant, par leur témoignage. Et quelquefois, leur témoignage, qui en grec se dit martyréo, va les amener aux martyrs, aux martyrs. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que pour... on l'a vu ailleurs et on le reverra. Ceux qui, comme le dit l'Apocalypse avec son langage fleuri, ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, à savoir qu'ils ont... Nous, on dit mouillé sa chemise, mais là, ils ont rougi leur chemise parce que ils sont avec l'agneau, ils sont auprès du trône. Et leur témoignage... même dans la mort, ils sont un témoignage. D'ailleurs, ils sont un témoignage pour ceux qui restent. C'est-à-dire qu'il y en a, pour ceux qui restent, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas hésité à laisser leur vie dans le témoignage. Et au travers de leur mort, ils témoignent. Oui, oui.
Où il disait que parmi les chrétiens, ceux qui ont été... disons docteurs, vraiment plus porteurs de fruits, parfois, iront même jusqu'à prêcher l'évangile dans les enfers.
Oui, alors ça c'est dans la mythologie de Clément d'Alexandrie. Moi, je pense plutôt que, là j'entendais, on disait, ils n'ont pas aimé leur vie, où est-ce que c'est, même face à la mort. Hein. En fait, c'est leur exemple de témoignage conséquent jusqu'au bout qui sert pour... toutes les générations à venir, de témoignages. C'est-à-dire, alors qu'ils sont morts, ils continuent à être des témoins parce qu'ils ont été. C'est d'ailleurs sur cette veine que s'est développée, de façon quelquefois un petit peu sanguinolente et gore, toute la martyrologie, où il s'agissait de montrer que les ancêtres de la foi étaient des exemples à suivre. Puis alors, dans toute la martyrologie, on en rajoute même pour montrer à quel point ils n'avaient pas peur. C'est un développement ultérieur.
C'est un développement ultérieur, mais ce n'est pas dans la mentalité des gens qui auraient pu faire le texte.
Non, parce que ceux qui sont déjà passés par le martyr, leur sort est décrit dans l'Apocalypse comme le sort des bienheureux qui sont en permanence perpétuelle avec le Seigneur. Mais ils n'ont plus d'action. L'action à faire, c'est les frères qui restent. C'est ceux qui restent sur terre et qui ont à faire face au dragon qui est très en colère d'avoir loupé sa proie.
Michel, c'est un archange.
C'est un archange. Vous savez que dans le judaïsme tardif, il y a une angéologie qui se développe. Il y a trois archanges. Et donc, plus il y a d'anges qui apparaissent, après, il faut organiser tout ça, sinon ça fait un peu fouillis. Alors, on les organise avec des chefs, des sous-chefs, etc. Dans le judaïsme tardif, on en a quelques traces dans les livres bibliques. On a Gabriel, Uriel et Michaël. Voilà. Et Raphaël, vous avez raison. Puis Azaël, c'en est un. Enfin, je ne sais plus. Je ne suis pas très bon en angéologie. Oui, voilà. Il y a des bons, des mauvais. Enfin, après, ça va se développer. Hein. C'est un fatras.
Il y a un certain nombre qui sont cités dans le quatrième livre
d'Esdras. Dans Esdras, bien sûr, qui est extrêmement friand dans géologie. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il nous reste deux choses avant d'aller vers le chapitre 13. C'est d'une part l'identification de la dame. Et puis après, on fera un petit détour par l'iconographie. Mais cette femme, vous pensez, qui est-ce ?
On pense à Marie.
Alors, on pense à Marie. Pourquoi est-ce qu'on pense à Marie ?
Parce qu'elle met au monde un enfant.
Elle met au monde un enfant.
Elle est maître des nations.
Ouais. Alors il y a d'une part ça, et puis il y a aussi le fait qu'on est pris par l'imaginaire et la tradition catholique qui nous a présenté Marie comme reine du ciel. Et qui nous la montre dans certaines églises où vous voyez Marie qui est debout sur le globe terrestre, écrasant un serpent, reprenant l'antique prophétie faite à Ève, il te mordra le talon et toi tu lui écraseras la tête.
Qu'est-ce que c'est ces 1260 jours ?
Alors, on va y venir. Pourquoi ce serait pas Israël ? Je trouve que c'est une très bonne idée. D'une certaine façon, l'interprétation d'y voir Marie n'est venue que tardivement avec la mariologie qui s'est développée dans le courant du Moyen-Âge. Mais en fait, cette femme, elle est à la fois la mère du Messie, elle a 12 étoiles sur la tête, ça renvoie aux 12 tribus d'Israël, et avec la plupart des exégètes, je pense qu'il s'agit effectivement d'Israël qui enfante du Messie. On a plutôt là l'affirmation que la persécution des Juifs a eu lieu aussi, enfin en tout cas des vexations dans l'Empire romain de la fin du 1er siècle, hein, après la chute de Jérusalem. Et d'une certaine façon, l'agressivité que le serpent avait contre la femme, avait contre Israël, s'est transposée à sa descendance, entendons la communauté chrétienne, qui se sent comme le légitime héritier d'Israël. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dans les lettres de l'Apocalypse aux sept églises, il y a ceux qui se prétendent juifs mais qui ne le sont pas. C'est les autres, c'est les juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, enfin, ou qui n'ont pas, qui ne sont pas rentrés dans la communauté chrétienne, qui ne sont pas devenus judéo-chrétiens. Donc je pense que la logique du texte nous oriente vers Israël, mais c'est vrai que la tradition chrétienne, dès le Moyen-Âge, a voulu voir dans cette femme Marie.
Il y avait une autre interprétation comme quoi la femme pouvait être identifiée à l'Église. Là, je crois que ça remonte à l'Antiquité.
Oui, ça, c'est l'Antiquité, les pères de l'Église. Vous avez raison que, avant qu'on l'identifie à Marie, mais alors après, comme il y a une identification Église-Marie, notre mère à tous, etc., vous voyez. Voilà, ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Mais voyez comment finalement on voit bien comment ces identifications s'enchaînent et peuvent se regrouper. En milieu occidental, il est naturel d'intégrer à la fois la tradition orientale de l'Église et Marie, puisque on a une identification de Marie comme mère et de l'Église comme mère. Dans la compréhension. Mais je pense que l'auteur, à l'époque où il parle, à la fin du 1er siècle, il pense évidemment à Israël et au fait que la communauté chrétienne fait partie de la descendance de la femme et que comme Israël a été persécuté par le dragon, sa descendance est persécutée. Et puis ça permet de réaffirmer la messianité de l'enfant dont il est question.
C'est embêtant cette interprétation, parce que elle justifie la tendance qu'a eue à un moment donné l'Église catholique de se prendre pour l'héritière d'Israël comme peuple saint et porteur de la parole.
Alors, à vrai dire, je vais le dire un peu vulgairement, on s'en fiche un peu. Mais je vais vous dire, c'est pas parce que des compréhensions ont pu être détournées ensuite ou être tordues que la compréhension n'est pas juste. C'est un petit peu comme si on disait Darwin a tort parce que ça a produit la surinterprétation du darwinisme social auquel il n'a jamais pensé. Bah oui, on a fait ça de lui. Wagner n'est pas nul parce qu'il a été aimé par le nazisme. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, donc c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent avec cette... Et ce serait tout un travail à faire de voir en régime chrétien quels sont les différents rapports qui ont été donnés pour expliquer qu'il y a Israël et les promesses et puis l'Église. Alors effectivement, il y a cette compréhension problématique que vous signalez qui est du remplacement, comme s'il y avait évacuation. Comme si Israël était relégué. En même temps, voilà, il y a des risques un peu à tout. Hein. Enfin, c'est un sujet en soi. Il y a un très bon livre qui est sorti, auquel j'ai participé, je fais une toute petite parenthèse, à la demande de l'Église réformée de France de l'époque, devenue entre-temps, le temps qu'on fasse ce livre, Église protestante unie, qui s'appelle « Foi protestante et judaïsme, une fraternité exigeante ». C'est un collectif auquel j'ai participé, dans lequel vous aurez justement travaillé ces différents rapports, avec des rapports problématiques quelquefois. Oui, allez-y.
Oui, ça va quand plus loin, quand il y a le développement qui se fait au verset 16, et la terre secoue la femme et ouvre la bouche. Est-ce que la terre qui engloutit la femme, alors, la mentalité des gens de l'époque.
Elle n'engloutit pas la femme, hein. La terre ouvre la bouche pour engloutir le flot.
Sauve,
ouais. Ce qui est un argument de plus pour y voir Israël, parce que qui a été sauvé des eaux par l'écartement des eaux, etc. Là, c'est une figure de l'Exode. Hein. C'est comme si la femme a le destin d'Israël, elle est Israël, elle a été sauvée au travers des eaux. Et pourquoi elle a été sauvée au travers des eaux? Alors là, on est en logique chrétienne, c'est pour pouvoir enfanter le Messie qui était annoncé.
Après, on ne parle plus de la femme. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la femme est engloutie avec les eaux? Vu qu'après, on n'en parle plus du tout.
Non. Non, on n'en parle plus du tout parce que l'intérêt, c'est le gamin. c'est l'enfant. Vous voyez? Alors, juste avant qu'on passe au chapitre 13, je vous ai mis au dos. Vous voyez que cette mythologie, cette vision du visionnaire de Jean de Patmos, comme la plupart des visionnaires, ils vont chercher leur imaginaire dans ce qui est disponible dans leur époque. Et alors, sur le registre d'un combat avec un dragon, ça remonte à loin. Vous voyez Marduk qui combat Tiamat, dans la mythologie mésopotamienne. D'ailleurs, le propre des dragons et du mal, c'est de pouvoir avoir plusieurs figures. Hein, Tiamat, c'est un dragon-serpent qui peut s'envoler, qui est polymorphe, un petit peu comme notre serpent-dragon avec des ailes, etc. C'est-à-dire que le mal a toujours une figure polymorphe. Vous avez dans la mythologie grecque le serpent Python qui essaie d'attaquer qui attaque Leto qui accouche d'Artémis et d'Apollon. Donc vous voyez là le motif d'un dragon qui va attaquer une femme qui enfante est tout à fait présent. Vous avez le dragon Cétus qui était sur le point de dévorer Andromède qui était attaché à son rocher, Et puis, dans la mythologie chrétienne, vous allez avoir Saint Georges et un certain nombre de saints qui vont être des pourfendeurs de dragons. Hein? Et puis jusqu'à Saint Michel, alors là, c'est Michel de l'Apocalypse, Michael, là, c'est la fontaine Saint-Michel. J'ai toujours rêvé de faire une animation biblique sur Genèse 12 devant public, devant la fontaine Saint-Michel. Peut-être un jour je ferai ça, parce que les gens ne se rendent pas compte que la fontaine Saint-Michel représente le chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous avez Michel qui est vainqueur du dragon, et puis vous avez les deux bêtes hein, qui crachent de l'eau dans la fontaine, qui sont sur la rive, qui représentent les deux bêtes du chapitre 13 que nous allons rencontrer tout à l'heure. Hein? En plus, il y a toute une exégèse moralisante. Il y a un architecte et puis plusieurs sculpteurs. J'ai ça quelque part, mais je l'ai plus en tout cas dans ma tête. Avec une interprétation un petit peu moralisante. Il semblerait que c'est une fontaine qui a été dédiée à Saint-Michel parce que quand il y a eu la rénovation haussmannienne de Paris, on voulait faire des grands axes. Hein, pour faire cet espace-là, on a dû détruire une chapelle Saint-Michel et un cimetière Saint-Michel. Et un petit peu en compensation... Le fronton, qui est d'ailleurs un fronton artificiel, hein, qui est posé par-dessus les immeubles qui sont derrière, représente les hauts faits du saint qui s'est vu privé d'un lieu à cause de la... Mais enfin, c'est une autre affaire. Je vous suggère d'avancer, puisque malheureusement, nous n'avons plus qu'une demi-heure, et je vous fais passer un... Le chapitre 13, donc vous pouvez le faire passer rapidement, voilà. Donc vous voyez le truc, pendant que ça circule, hein. Un grand combat a eu lieu au ciel, sur le fond il a été vaincu, il a été victorieux pour le camp de Dieu, à cause de la mort du Christ et de ceux qui en témoignent. Et maintenant, le travail reste à faire sur terre, puisque le diable n'est pas mort et il est en fureur, comme une bête blessée, contre les descendants de la femme qui sont la communauté chrétienne. Alors on ira voir la belle image, vous voyez, l'atelier protestant ne recule devant rien. Parce que vous avez une belle photocopie couleur d'une merveilleuse enluminure flamande. Mais avant de lire, et peut-être pour la décrypter, nous allons d'abord lire le texte. Sur le texte d'Apocalypse 13, vous voyez qu'en haut, je vous ai mis la fin du chapitre 12. Il se posta... sur le sable de la mer. Donc le grand dragon rouge feu qui a été vaincu au ciel est jeté par terre, il est très en colère et il se poste sur le bord de la mer, sur le sable de la mer. Et on a deux paragraphes et j'ai besoin de deux lecteurs. Un lecteur ici et qui enchaînera Madame. Allez-y.
Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
Tiens donc.
Sur ses cornes, 10 diadèmes. Sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une de ses têtes était comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Étonnée, toute la terre suivit la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain, son chiffre est 666.
Merci beaucoup. C'est de plus en plus lumineux, vous voulez dire. C'est de plus en plus lumineux. D'abord, vous voyez que ça, on a affaire à un texte extrêmement construit, là aussi, puisque on a ces deux sections qui montrent une vision, et à la fin de chacune des visions, de une bête puis l'autre, hein, vous avez un appel à la compréhension. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende, et on vous décode le sens de ce qui a été dit hein, au verset 9-10. Et puis au verset 18, après vous avoir parlé de la deuxième bête, on vous dit, c'est maintenant que vous avez intérêt à avoir de la sagesse et de l'intelligence, parce qu'il s'agit de comprendre. Je vous ai pas raconté ça simplement pour vous distraire. Ça a un sens, et ça a un sens précis. Alors évidemment, on va essayer de s'y atteler. On va d'abord voir au niveau, comme si on était avec un satellite ou un drone un peu du dessus, le mouvement. Le dragon a été vaincu, il est jeté par terre, il se retrouve au bord du sable de la mer. Quelle est sa stratégie au dragon ? Alors madame dit, il se dédouble, monsieur dit, il délègue son pouvoir. D'autres suggestions, oui. C'est vrai dans tous les cas, oui. Pardon ?
Il attend son moment. Il attend leur venue.
Il attend son moment à rien faire ?
Le moment justement où il pourra agir efficacement.
Oui. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ?
Il s'avoue pas vaincu.
D'abord, il ne s'avoue pas vaincu.
Non.
Et il ne va pas agir sur la terre directement. Parce que vous comprenez, les grands dragons à ailes rouge sang, ça c'est pour le ciel.
Ça fait peur aux humains.
Puis c'est reconnaissable sur terre. En fait, il va déléguer son action. Alors, on peut dire, il se dédouble. Il se dédouble, c'est pas faux, parce que on voit bien que dans les deux bêtes, elles ont un lien intime avec lui. Elles poursuivent son œuvre, son combat, mais sous un autre masque, dans un autre rôle.
Comme s'il se réincarnait dans le deuxième.
Exactement, on pourrait dire ça. Ou alors qu'il va déléguer son pouvoir à des sbires. C'est-à-dire que le diable agit en mandatant un certain nombre d'instances. Et on voit que il mandate deux instances, deux bêtes qui montent de la mer, qui ont elles aussi un lien entre les deux. On va essayer de comprendre, voir les caractéristiques de la première bête, du premier des... Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui la caractérise dans ses actions, ses paroles, cette première bête?
Elle blasphème.
Elle blasphème. Ça veut dire quoi, elle blasphème?
Elle dit
du mal de Dieu. Ça, c'est notre façon de comprendre aujourd'hui. Le blasphème, c'est souvent de dire « je suis Dieu hein, ». C'est pas seulement dire du mal de Dieu ou jurer, hein, ou dire « mort Dieu ». Ah non, on ne dit pas « mort Dieu », on dit « mort bleu », mais c'est pareil, ou « sacre bleu ». Non, c'est presque de... D'une certaine façon, c'est se tromper de Dieu, ou c'est... François Florentin Smith, qui était intervenu dans le cadre d'une exposition que j'avais montée sur les caricatures, hein, caricatures et théologie, là, trait d'esprit, disait, pour expliquer après les événements de Charlie, etc., dans la Bible, et en particulier dans la Bible hébraïque, le blasphème, c'est faire mentir Dieu. Blasphémer, c'est faire mentir Dieu. C'est-à-dire que si on dit « Dieu est amour » et qu'on n'est pas dans une attitude d'amour, c'est un blasphème, parce qu'on donne un contre-témoignage. Si on dit « Dieu est miséricordieux » et qu'on tue ceux après qui on en a, on est des blasphémateurs parce que on ment sur Dieu et on fait mentir Dieu. On fait mentir ses promesses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un tout petit peu autre chose que la simple insulte ou la simple profanation. C'est le fait d'avoir un discours ou une attitude qui donne de Dieu une image qui n'est pas celle, ou qui donne de Dieu un discours sur Dieu qui n'est pas le sien, qui est en décalé.
C'est pour ça que les musulmans disent qu'on blasphème Dieu en représentant... Mahomet.
Alors justement pas. Justement pas. Enfin oui, on pourrait le dire parce qu'ils ont une représentation du fait que Dieu ne doit absolument pas être représenté. Il y avait une très belle couverture de, je crois c'était de Marianne, après les événements de Charlie Hebdo, où il y avait un djihadiste avec sa kalachnikov encore fumeuse, et il y avait un gros doigt du dessus qui disait. Ben, lui il disait Dieu est grand. Et le gros doigt lui disait justement, il n'a pas besoin de toi pour le défendre, ou quelque chose comme ça. Ou alors une caricature de Dilem, un dessinateur algérien. Il y a un djihadiste qui accuse le dessinateur en lui disant tu blasphèmes, arrête de blasphémer, dit-il au dessinateur. Et le dessinateur lui répond toi d'abord. Sous-entendant que le djihadiste est un blasphémateur par l'acte même qu'il pose, parce qu'il dénature l'image du Dieu qu'il est. Voilà. On ferme cette parenthèse-là, mais c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière le blasphème, qui est autre chose qu'une simple insulte. C'est d'introduire une mauvaise compréhension de Dieu. Hein. Voilà, oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore de cette première bête ?
Elle a les mêmes nombres de têtes et de cornes que le grand dragon.
Elle ressemble étrangement au grand dragon, puisqu'elle a le même nombre de têtes et de cornes, et on avait vu que ça identifiait clairement Rome.
Pas exactement, parce que oui. Dans le chapitre 12, il y avait 7 têtes et 7 diadèmes, je veux dire. Et là, c'est...
Ouais.
10 cornes et 10 diadèmes.
Oui, il y a 10 diadèmes, ouais, vous avez raison. Ce coup-ci, là, les trois, là, Galba, Vitellius et Othon, ont trouvé une couronne. Mais je pense qu'on est dans les mêmes imaginaires. Vous irez voir le décodage qui est donné, hein, tout à fait clairement, en Apocalypse 17, je vous ai mis la référence, versets 7 à 11, hein, je vous ai mis la référence à côté. Comment est-ce qu'elle agit, cette première bête, en dehors de ses paroles blasphématoires? C'est quoi son mode d'intervention auprès des populations?
La parole, les paroles. parole arrogante.
Alors, ça, on l'a vu. C'est une première, un premier mode d'intervention.
La calomnie. Elle fait la guerre aux saints.
Elle fait la guerre aux saints. Ça veut dire quoi? Et elle arrive même à les vaincre. C'est qui les saints?
Des personnes consacrées à Dieu.
Alors, dans le langage du Nouveau Testament, les saints, c'est tous les chrétiens. C'est-à-dire que ce n'est pas les saints au sens que c'est devenu dans la tradition chrétienne, catholique en particulier. Les saints, c'est ceux qui ont été mis à part pour Dieu, à savoir tous ceux qui ont consacré, qui consacrent leur vie à Dieu, et pas seulement le clergé. Tous les... donc, elle fait la guerre aux saints, et elle a même le dessus. Ah, elle a le pouvoir de les vaincre. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait encore, cette bête, cette première bête? Quels sont ses attributs ou ses... Oui. Elle a pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Mais des fois, je vous avais dit ça une des premières séances, on est souvent fasciné dans l'Apocalypse parce qu'il est incompréhensible et on dit c'est incompréhensible. Mais si on lit le verset 7, en tout cas le 7b, on voit que c'est une entité qui a le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est pas très difficile à l'époque de se demander qui c'est. C'est l'Empire romain qui...
C'est même l'empereur, parce qu'il dit « ils se prosterneront devant elle
ouais. ».
À la fin du verset 8.
Ouais.
Et donc, c'est le culte de l'empereur qui apparaît immédiatement.
C'est le culte de l'empereur, exactement. Et c'est en ça qu'il est blasphémateur. C'est qu'il réclame l'adoration qui est due à Dieu, et il dit « Dieu n'est pas Dieu, Dieu c'est moi ». Et on sait que l'empereur romain s'est auto-divinisé de plus en plus et que le climax de cette divinisation arrive à la fin du premier siècle, début du second siècle, et on est en plein dans un thème d'adoration de l'empereur divinisé et en particulier en Asie mineure. En Asie mineure, qui est l'ensemble des communautés qui sont visées par l'Apocalypse en premier ressort, les sept églises, la Éphèse, Thyatire, Smyrne, etc. Je me rends compte qu'il y a un élément qu'on n'a pas relayé tout à l'heure dans le chapitre 12, c'était les 1260 jours. Ça fait combien de temps, 1260 jours? Non, 3 ans et demi. Puis 42 mois, ça fait combien? Ça fait 3 ans et demi.
La moitié de 7.
C'est la moitié de 7. C'est un temps qu'on va retrouver très souvent, soit exprimé en jours, soit exprimé en mois, soit exprimé en temps. Vous allez voir deux temps, un temps et la moitié d'un temps. Ça fait de nouveau 3 temps et demi. Alors ça, c'est hérité de la révolte maccabéenne. Quand au IIe siècle avant Jésus-Christ, des juifs pieux se sont révoltés contre le pouvoir tyrannique des Séleucides, et en particulier Antiochus Épiphane IV. Et il se trouve que c'est devenu un temps symbolique, mais c'était un temps... à l'origine un temps historique, parce que l'insurrection démarre en 167 avant Jésus-Christ et se termine à l'automne 164 avant Jésus-Christ, après 3 ans et demi de maquis, de guérilla. Le temple est reconquis, sacralisé, reconsacré, exactement, et c'est ce qui nous vaut la fête de Hanouka, la fête des Lumières en milieu juif au début décembre, qui fête la remise en route du temple après 3 ans et demi de combat. Et alors, dans l'apocalyptique juive du siècle avant notre ère et du premier siècle, cette période de 3 ans et demi, qu'elle soit 42 mois, 1260 jours ou ou deux temps, un temps et la moitié d'un temps, devient le modèle d'une, d'une épreuve où ça va être dur, mais on va gagner à la fin. Mais ça va être extrêmement violent. Alors, M. Signalet, que c'était la moitié de 7, il a tout à fait raison. C'est que dans la logique symbolique des chiffres de l'Apocalypse, tout ce qui est une altération de 7, qui est le chiffre divin parfait, est l'imperfection absolue. Alors, une des façons d'abîmer 7, c'est de le couper en deux, 3,5. Ça peut être d'enlever 1, ça fait 6, et on retrouvera un 666 qui va se retrouver à la fin. Donc, tout ce qui abîme 7, quand on multiplie 7, c'est bon. Hein. 144 000, c'est très bon. Mais ce qui retranche à 7, alors c'est... Ce qui est un peu logique, hein. Si vous avez un mur qui est parfaitement blanc, immaculé, puis que vous avez une petite tache à un endroit, ça fiche tout par terre. La moindre imperfection de la perfection, c'est le mal absolu. Voilà. Donc, on est dans cette logique-là.
Mais, oui. Dans la première lecture,
vas-y.
Verset 14 aussi, il est question de temps, des temps et de la moitié d'un temps.
Oui, exactement. Un temps, deux temps et la moitié d'un temps, si tu comptes bien, ça fait trois temps et demi. 42 mois ou 1200 et quelques jours. Donc c'est tout. Deux temps.
Des temps.
Alors, des fois, il y a des temps parce que c'est un peu compliqué. C'est un truc de grammaire sur le duel. Mais voilà. Donc c'est devenu, on l'a dans toutes les apocalyptiques juives, ce temps qui est un temps d'épreuve intense qui débouche sur une victoire finale. Hein? C'est devenu presque un code. C'est long, surtout vers la fin. Alors, j'avance un peu, vous m'excuserez. Vous voyez que dans la leçon qui est tirée de cette première partie, qu'est-ce que doit retenir celui qui a des oreilles pour entendre ? C'est que...
L'inéluctabilité dans le malheur.
Il est inéluctable que vous soyez persécuté d'une façon ou d'une autre. Donc ne vous mettez pas en souci. Celui qui, à la sortie de cette étude biblique, devra aller en prison, pas pour détournement de fonds, hein, pour le témoignage de l'Évangile, ira en prison pour le témoignage de l'Évangile. Celui qui devra être exécuté par le glaive pour le témoignage de l'Évangile le sera. Donc ce n'est pas la peine de se faire du souci. Il arrivera ce qui doit arriver. Et c'est le temps de la persévérance des saints. Vous voyez que, et ça vient comme conclusion de l'action de la première bête mandatée par le grand dragon. Sa première action est une action orgueilleuse, blasphématrice et coercitive. D'ailleurs, on se rend compte que ça marche, puisque... où est-ce que vous avez eu ça ? Tous les habitants, verset 8... De la terre se prosterne devant ce pouvoir, soit par peur, soit par adhésion, à l'exception du petit nombre qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais d'une certaine façon, l'action de la première bête, elle a son efficacité. Elle convainc la majorité de la terre. Et le reliquat, ben, il est persécuté par la coercition. Alors, on reviendra sur la question de non inscrit, si vous voulez bien. Pardon ?
On l'avait déjà en 3, étonné toute la terre suivie de la
bête. Étonné toute la terre suivie. En fait, la première action du dragon, c'est une action de force, de puissance, qui en jette tellement, qui en impose tellement, que la majorité... disent. Et d'ailleurs, vous voyez que qu'est-ce qu'elle se dit il y a un endroit, il y a qui est comme la bête et peut la vaincre. Verset 4, merci. On se prosterne devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre. C'est une question rhétorique, c'est sous-entendu.
Personne.
personne, c'est pas la peine de lui résister. C'est pas la peine de la résister, elle est la plus forte. Et alors il y a un jeu avec le chapitre 12. Parce qu'il y avait déjà une question qui disait qui est comme au chapitre 12. Sauf que vous ne l'avez pas vu, parce que c'est dans le nom Michaël. Michaël, en hébreu, ça veut dire qui est comme Dieu. Mais c'est une question. Il y a le même qui pose la. Qui est, c'est le qui. Qui comme Dieu ? Michaël, ça veut dire qui comme Dieu ? Sous-entendu, personne. Donc vous avez au chapitre 12 un certain qui est comme Dieu ? Point d'interrogation. Sous-entendu, il n'y a personne au-dessus de Dieu, Dieu est vainqueur. Et d'ailleurs, c'est ce que montre le chapitre 12. Personne n'est comme Dieu, Dieu est vainqueur, enfin Dieu et ses anges et Michaël. Mais ceux qui, dans le chapitre 13, ne croient pas en l'agneau, n'ont pas la référence de Dieu, eux ils disent, pas qui est comme Dieu, ils disent, qui est comme la bête ? Personne. C'est pas la peine de lutter. Il vaut mieux soumettre. Et donc il y a. En fait, on a pas, c'est pas des visions échevelées, c'est extrêmement construit. Il est en train de s'adresser, il constate que l'efficacité de la coercition de la première bête est redoutable. La preuve, c'est que la majorité de la terre se soumet et dit, c'est pas la peine de lutter.
Il l'a vécu puisqu'il a filé vers Patmos.
Oui, absolument, oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de blessure de la bête ?
Ah, la bête. Alors, c'est marrant parce que la bête, elle essaie de ressembler à l'agneau. Peut-être qu'on débordera la prochaine fois. Hein. On ne débordera pas l'horaire, mais la prochaine fois, on prendra. On se demanderait. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que vous savez que Néron est mort dans des conditions un peu compliquées, étranges, controversées. Certains même disent qu'il s'est suicidé. Et puis certains disent qu'il est même ressuscité. À la fin du 1er siècle, traîne dans l'Antiquité romaine l'idée que il y a Nero redivivus. Néron vit toujours et Néron est encore en vie. À tel point même que Domitien, l'empereur de la fin du 1er siècle, se déclarera être Néron, le successeur de Néron ou le second Néron ou la réincarnation de Néron. Alors, plusieurs exégètes pensent qu'il y a cette idée qui traîne là, c'est que la bête la pire qu'on peut voir dans l'histoire des sept empereurs romains, c'est Néron, c'est l'empereur horrible, ayant persécuté les chrétiens, etc. Et alors, qui présente à la fois l'avantage, s'il est comme blessé, mais vivant, il se présente comme une image très très proche de l'agneau qui est comme immolé, ou immolé, mais debout. Et donc, on aurait eu un motif qui montre que les deux sont concurrents.
Hein, contrebattre la résurrection du Christ en ressuscitant.
Exactement. Hein. Je vous invite quand même, parce que c'est bien de le faire dans le mouvement, vous voyez que la deuxième bête, elle a des liens avec la première, mais elle a une autre fonction. Elle n'est pas uniquement dans la coercition et la force et la puissance. Essayons d'identifier sur quel registre la deuxième bête, mandatée par le dragon, agit.
Par des miracles.
Elle fait plier devant la première.
Par des miracles. Elle vise à faire adorer la première. Oui.
Et sa blessure mortelle, justement, a été guérie.
Oui, ça fait partie de l'image.
Elle produit des signes.
Vous voyez que la deuxième bête, elle donne à voir. Elle donne à voir, elle est au service de la première, pour que la première soit adorée. Elle est beaucoup comme. Hein. Elle est comme semblable à un agneau, mais quand on l'écoute bien, on voit bien que c'est la voix du dragon.
Avec deux cornes.
Hein, ah, ouais.
L'agneau avec des cornes.
C'est un agneau à cornes, oui, oui. Hein.
Elle marque.
Oui.
Elle marque sur la main.
Alors là, on a le registre de l'économie qui va arriver. Elle fait parler l'image de la bête. Ouais. Moi, je dirais, dans un langage assez moderne, la deuxième bête, c'est la com. C'est la propagande. C'est-à-dire que on a la première bête qui est la coercition, et puis on a la deuxième qui est la propagande. Et elles œuvrent toutes les deux pour que l'Empire soit adoré. Si la propagande fonctionne, c'est bien, c'est économique. Quand elle ne fonctionne pas, il reste la coercition. C'est-à-dire que le visionnaire de Patmos, en fait, est en train de nous livrer là une analyse assez fine de ce que peuvent être tout pouvoir tyrannique ou dictatoriaux. Et on le sait, on a eu des exemples, on en a encore dans le monde, et on en a eu des exemples au XXe siècle et tout au long de l'histoire. Grosso modo, tout pouvoir tyrannique a besoin de reposer sur deux pieds. Un pied qui est la propagande et un pied qui est la force, l'un servant l'autre, l'un prenant le relais de l'autre. C'est-à-dire que le visionnaire de Patmos nous décline comment le grand dragon qui représentait déjà l'Empire agit sur Terre. Il agit par la séduction et par la persécution, par la coercition contre ceux qui ne rentrent pas dans la combine de la séduction, on pourrait dire. Je m'excuse, je presse les choses pour qu'on puisse arriver un petit peu au bout de... Oui.
Oui, mais moi je reviens à la première bête, je suis frappé par la répétition, il lui fut donné.
Oui, alors ça c'est tout à fait intéressant, on a affaire à ce qu'on appelle un passif divin, et qu'on trouve beaucoup dans la Bible hébraïque, c'est que quand on a un passif, c'est pour éviter de dire « Dieu a fait ».
Ah, voilà.
C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est en train de décrire le fonctionnement pervers de l'Empire romain comme un État totalitaire qui manie la carotte et le bâton ou la propagande et la coercition, en même temps, on nous dit que tout ça est dans la main de Dieu. Et c'est seulement, alors ça c'est un petit peu comme dans le livre de Job, hein, madame était avec moi pour parler de Job, c'est seulement parce que Dieu l'accepte que l'adversaire accepte que le mal est une action limitée. Mais c'est le discours de l'Apocalypse. C'est le mal existe, le mal est douloureux pour vous à qui je parle, mais il est limité et il ne tient son pouvoir limité que du fait que ça lui est accordé. Ce qui veut dire que quand le Seigneur l'aura décidé, il pourra mettre... C'est ça le message d'espoir. C'est que les temps sont durs, mais vous êtes dans la main de Dieu. Et ultimement, vos ennemis sont aussi dans la main de Dieu. C'est le même discours que pendant l'exil. Hein. Les Babyloniens sont les plus forts, mais ça n'aura qu'un temps. Et ils seront battus parce qu'ils sont les instruments de Dieu. J'accélère un petit peu. Vous voyez que la dimension de l'économie apparaît. Tout le monde doit porter la marque. Et si on n'a pas la marque, on ne peut pas acheter ni vendre. Et vous savez que sur toutes les pièces de l'Empire figure une image. C'est l'image de l'empereur. Alors, certains exégètes disent qu'il y a aussi l'idée qu'un esclave est marqué de la marque de son maître, mais on est dans la même logique. D'une certaine façon, peut-être que le visionnaire intègre même la participation à l'économie de l'Empire comme étant une des figures de la collaboration à l'Empire. Et puis, vous voyez qu'il dit « Je ne parle pas de n'importe quoi, je parle d'un personnage précis ». D'ailleurs, son chiffre est un chiffre d'homme, 666. Et je vous ai mis le décodage en bas. Ce n'est pas du tout une hypothèse nouvelle, puisque vous voyez que Irénée de Lyon, persécuté en 150 après Jésus-Christ, pensait déjà que c'était César Néron. Et vous savez qu'en hébreu, comme en grec d'ailleurs, mais en hébreu, il n'y a pas de chiffre, et chaque lettre vaut un chiffre. Et que si on met César, César, Néron, on lit de droite à gauche, avec l'équivalent chiffré, en bas, il y a un Kaf, un Samek, un Resh, puis après un Noun, un Resh, un Vav et un Noun, on arrive à 666. Ouais, allez-y, oui. Ce qui est drôlement intéressant, c'est que, écoutez, il faut juste un tout petit peu s'accrocher pour comprendre l'argumentation, mais c'est tout à fait intéressant. Il y a des manuscrits latins de l'Apocalypse qui disent pas le chiffre, c'est 666, mais 616. Alors, il faudrait le savoir. Ce qui est drôlement intéressant, c'est que en hébreu comme en grec, on dit César, César ou Kaiser, Néron, Néron. En grec, on dit Néro. Donc il n'y a pas le noun final. Mais le noun final, il vaut 50. Vous avez des traducteurs de la Bible, de l'Apocalypse en latin, qui avaient tout à fait compris que si on parlait à des gens qui parlaient latin, ça collait plus si on mettait 666. Parce que Néro, il n'y a pas le noun final. Alors, il corrige le chiffre pour que ça colle. Je trouve ça... pour moi, c'est une preuve définitive que... C'est un chiffre qui, vous l'imaginez, a fait couler beaucoup d'encre, qui est récupéré par toutes les sectes sataniques qui vous... parce que 666, c'est le mal absolu, etc. Ça barre dans n'importe quelles interprétations ésotériques. En fait, on a affaire dans le livre de l'Apocalypse à un visionnaire qui est tout à fait conscient qu'il dit des choses précises, qu'il livre une analyse politique, qu'il comprend que les deux armes du pouvoir tyrannique romain, c'est la propagande et la coercition, les deux fonctionnant ensemble d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer de donner à une communauté chrétienne, non pas les armes pour faire la révolution, ils ne peuvent pas y penser, ou résister, mais résister spirituellement. Ne vous laissez pas séduire, comme le reste de la terre habitée, par cette idéologie-là. Il leur donne les moyens spirituels de résister, fût-ce au prix de leur vie. Mais c'est en même temps une espérance. Ils savent que leur combat n'est pas vain. C'est-à-dire qu'il leur permet de rester intègre, de ne pas se désintégrer dans la masse des gens qui sont soumis à l'Empire. Et alors j'aimerais terminer, et ça va nous faire débronner un tout petit peu, mais à peine, par cette magnifique... mais si vous voulez, on reprendra ça. Si vous voulez, gardez les questions que vous avez pour la prochaine fois, on reprendra vos questions sur... c'est une lettrine flamande du 14e siècle qui représente pour chacun des chapitres de l'Apocalypse un grand dessin. Ce n'est pas une lettrine, c'est une enluminure. Si on lit cette enluminure en trois registres, il y a un registre haut, un registre médian et un registre bas. Vous voyez que dans le registre haut, c'est le tout début, c'est l'articulation entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Vous avez tout en haut, c'est celui qui préside, c'est Dieu, mais avec une auréole, avec une croix dedans, c'est le Christ Dieu de l'Apocalypse, l'agneau qui trône sur eux. Vous avez le visionnaire qui est en train de regarder ce qui se passe, et il voit le grand dragon qui tremble rouge, comme le dit l'Apocalypse, qui transmet son sceptre, son pouvoir, à la première bête. La première bête, elle agit dans le registre du milieu. Alors vous voyez ce qu'elle fait? elle apparaît deux fois, comme souvent, c'est le même personnage. Elle apparaît d'une part vis-à-vis de ceux qui l'adorent. Puis vous voyez que ceux qui l'adorent, c'est qui ? Des dignitaires de l'Église et du pouvoir impérial. Et par contre, il y a ceux qui l'adorent. Alors ceux qui l'adorent, ils n'ont rien à craindre, puisqu'ils l'adorent. Mais il y a aussi ceux qu'elle combat.
Voilà. On voit les saints.
Ouais, vous voyez les saints.
Avec l'appui des musulmans.
Ah, des saints avec l'appui des musulmans qui ont le cimetière. Et vous voyez que on a là des braves dominicains qui se font trucider. Dans le registre du bas, vous avez la deuxième bête, celle qui sert à faire la propagande. Et la première, c'était la coercition. La deuxième, elle ressemble à un agneau, mais en fait, ce n'est pas un agneau. Elle amène la population de la terre à adorer la première bête. Vous voyez qu'elle est dans la niche.
On dirait un confessionnal.
Hein ? Et elle met une marque sur le front des empereurs, et on reconnaît même l'empereur Sigismond Ier. L'empereur Sigismond Ier, c'est celui qui a agenouillé là. C'est celui qui a présidé au concile à la fin duquel Wycliffe a été condamné. Et puis, comment c'est le... Concile de Constance. Et à la suite duquel, je crois, Jean Hus a été brûlé aussi. Si je vous montre ça, et ceux qui sont les méchants, c'est les moines franciscains. Ils sont en bête parce qu'ils représentent la deuxième bête. C'est eux qui font la propagande pour l'adoration de la première bête. Pourquoi je vous montre cette belle en lumière en dehors du fait qu'elle est belle ? C'est pour vous montrer que la lecture politique du livre de l'Apocalypse n'est pas une lubie moderne. C'est que l'auteur de ces enluminures, vers 1400, en plein milieu des croisades, au moment du concile de Constance qui vient éviter le schisme de la papauté, qui conduit à la condamnation de Wycliffe et de Jean Hus, a tout à fait compris que l'Apocalypse n'est pas en train de nous parler de la fin des temps dans un futur hypothétique, mais est en train de parler des combats que les chrétiens ont à mener ici même. C'est-à-dire, il est tout à fait conscient de la dimension politique et présente de l'Apocalypse. Et ils n'ont pas fini de les mener. Parce que d'une certaine façon, et c'est ça qui fait l'actualité permanente de l'Apocalypse, c'est que les pouvoirs dictatoriaux ou tyranniques n'ont pas beaucoup changé de méthode. C'est-à-dire que de s'appuyer sur la propagande et la coercition, la propagande pour obtenir l'adhésion du maximum, la coercition pour obtenir la soumission du reliquat, c'est... Et vous voyez que le visionnaire de Patmos, si on le lit comme ça, alors bien sûr, il ne nous délivre pas un discours de Sciences Po, hein, mais avec les moyens visionnaires et imaginaires qu'il a, il donne des outils à la descendance de la femme ou à la descendance... Au témoin de l'enfant ou de l'agneau pour résister spirituellement. Je vous suggère qu'on s'arrête là pour aller.
Bravo.
Nous nous retrouvons en mardi 28 pour travailler, mars. Pour relire la chute de la grande prostituée et son jugement en Apocalypse 17 et 18. Voilà. Vous pourrez l'avoir lu avant. Ce qui. Mais si vous avez des questions sur 12, 13, on les reprendra pour commencer. Merci. Bonne fin de journée. Merci.